Ce balado est une présentation du TLFQ, Trésor de la langue française au Québec, groupe de recherche de l'Université Laval. Bonne écoute.
Bonjour et bienvenue au balado du Trésor de la langue française au Québec, la langue à la mémoire longue. Vous êtes toujours en compagnie de quatre professionnels de recherche qui participent à la réalisation du dictionnaire historique du français québécois. Bonjour Annick.
Bonjour Caroline.
Bonjour Julie.
Bonjour Caroline.
Aujourd'hui à l'émission, on en apprend davantage sur le processus de recherche qui mène à la mise à jour d'un article du fameux DHFQ, le Dictionnaire historique du français québécois. Notre professionnel de recherche vedette du jour, dont le travail sera au cœur de nos discussions, Joël. Bonjour Joël.
Bonjour Caroline.
Aujourd'hui, Joël, on s'intéresse au processus de recherche qui mène à la mise à jour d'un article du DHFQ et qui est un peu ton travail d'archéologue et linguistique.
Oui.
En quoi consiste la recherche de citations pour le DHFQ? Dans l'épisode précédent, Annick nous parlait de la recherche de citations aux archives de folklore et d'ethnologie de l'Université Laval. Toi, ta recherche est dans des documents... j'allais dire papier, mais disons-le de nos jours numérique. Donc, en gros, c'est quoi tes tâches au quotidien?
Au quotidien, en fait, là, j'ai un objectif principal qui est de mettre à jour les articles du dictionnaire en vue de la publication de la deuxième édition. Mon travail, en gros, se divise en deux volets. Le premier volet, c'est de trouver des citations qui sont postérieures à 1998, qui était, on le rappelle, la date de la première édition du DHFQ. Puis, en fait, cette recherche-là est utile à plusieurs égards. Donc, elle sert à mettre à jour l'article de dictionnaire, évidemment, pour qu'il soit moderne, donc en y insérant des citations récentes. Puis, cette recherche-là sert aussi à voir si un mot qui était en usage lors de la rédaction de la première édition est encore présent dans l'usage. Parce qu'on le sait, parfois, il y a des mots qui quittent la langue parlée, puis qui deviennent, par exemple, vieillis. Ça permet aussi de voir si les marques d'usage ont changé, c'est-à-dire est-ce que les notes sur des particularités relatives à l'usage d'un mot se sont modifiées. Si un usage, par exemple, s'est répandu alors qu'à l'époque, il était plus régional.
Tu dois aussi trouver des nouveaux sens.
Oui, ça arrive parfois. Donc, des fois, c'est super enthousiasmant. Là, je pourrais en parler un petit peu plus tout à l'heure. Mais oui, des fois aussi, je tombe sur des nouvelles choses qui n'étaient pas décrites, ce qui est toujours très excitant. Puis, évidemment, bon, ça, c'est tout le volet pour la modernité, là, vraiment mettre à jour. Puis, il y a un deuxième volet à mon travail qui est de vérifier, en fait, si, avec les nouveaux outils numériques, je peux trouver des citations antérieures à la première citation qu'on avait pour un mot. C'est-à-dire la première fois qui est recensée, en fait, qu'on a ce mot-là à l'écrit dans le DHFQ. Puis cet aspect-là de mon travail, ça a été mentionné, en fait, dans l'épisode 4 de notre balado par M. Poirier, quand il était question de faire reculer les dates d'attestation des mots à l'aide d'outils linguistiques. En gros, je tente de façon très, très large de mettre à jour l'histoire connue de chacun des mots qu'on décrit.
Puis vite, vite, comme ça, là, une vieille citation, ça peut remonter jusqu'à quand?
Bien, en fait, le premier dépouillement du DHFQ 1998 avait couvert pas mal tout le régime français. Donc moi, quand je trouve des vieilles attestations, souvent, c'est début des années 1800, des fois un petit peu antérieur, mais la plupart du temps, je me trouve autour des années 1820, 1850, quand je trouve quelque chose de plutôt vieux, parce que ce qui avait été fait avant avait quand même été très bien dépouillé, là, donc les outils informatiques ne me fournissent pas beaucoup plus que ce qui avait été fait à la main.
Mais je me demandais, Joël, qu'est-ce qui distingue les deux volets de ta recherche, c'est-à-dire les documents d'époque et les documents récents?
C'est complètement différent, en fait. C'est pas la même chose exactement, parce que je cherche ultimement des citations, évidemment, des deux côtés, là, qui pourraient être intéressantes pour le DHFQ. Mais dans les documents récents, un peu comme le mentionnait Julie tout à l'heure, je dois toujours rester à l'affût de nouveaux sens qui auraient pu apparaître depuis l'édition de 1998. Donc,
quand tu parles de citation intéressante,
oui.
C'est quoi tes critères, mettons, pour... qu'est-ce qui fait d'une citation qu'elle va devenir... qu'elle est intéressante ou pas?
Bien, c'est sûr que quand une citation, par exemple, a une valeur historique ou quand elle a une valeur culturelle, ça peut être super intéressant, puisqu'on décrit finalement une langue et donc une culture à travers ça.
Un peu comme l'exemple de Balanciné dont Annick avait parlé l'autre jour.
Exactement, exactement. Ça, ce serait une citation super intéressante si j'en trouvais une similaire à l'écrit. Puis, évidemment, j'essaie d'éviter certaines choses aussi. Donc, si on tombe sur une citation où il y a plein de marques déposées, bien, je vais l'éviter, celle-là, parce que c'est moyennement intéressant de mettre ça dans un dictionnaire et finalement de faire de la publicité gratuite.
De la publicité gratuite pour... Mais j'imagine aussi qu'il faut que dans l'extrait, dans la citation que tu choisis, il faut qu'on voit le sens, il faut que le sens il transcende un peu l'écrit.
Oui, c'est sûr que quand c'est juste une mention d'un mot dans un contexte complètement déconnecté, c'est moins intéressant. C'est plus intéressant quand il y a vraiment, par exemple, un contexte qui vient exemplifier ce qui peut entourer un mot. Donc, si c'est un nom commun, par exemple, bien, s'il est dans un contexte où on comprend vraiment ce dont il s'agit, c'est plus intéressant pour nous.
Puis pour revenir à la question qu'Annick te posait là, concernant les deux volets de ta recherche, là, mm-hmm. documents d'époque, documents récents, que tu cherches pas tout à fait la même chose.
Oui, bien, j'ai parlé de ce qui était récent, mais c'est sûr que dans les documents anciens, je ne cherche pas exactement la même chose. Donc, dans tout ce qui est ancien, la recherche est différente parce qu'on cherche justement à faire reculer l'histoire d'un mot. Donc, souvent, on a déjà décrit tous les sens dont il peut s'agir. Puis là, j'utilise toutes sortes de techniques de recherche pour trouver des choses nouvelles. Donc, je peux chercher différents groupes de mots, des graphies inusitées. Là, puis souvent, en fait, je me laisse aller dans mon imagination, surtout quand c'est des usages oraux, parce que la graphie était très inégale. Là, c'était pas encore tout à fait codifié par moment. Donc, ça, c'est plus pour les documents anciens.
Moi, je trouve ça tellement enthousiasmant. Là. C'est presque comme du sport extrême.
Eh bien, en fait, Julie, c'est très drôle que tu le mentionnes parce que des fois, je te jure, j'ai des poussées d'adrénaline. Quand je fais reculer l'histoire d'un mot, là, il y a comme, c'est comme si je venais de faire de la F1 là, ou un sport de haute vitesse. Quand on réussit à trouver un document qui prouve qu'on utilisait un mot sur le territoire du Québec des années, puis parfois des dizaines d'années, plutôt que ce qu'on pensait, c'est vraiment excitant. Là. Puis c'est vraiment dans des situations comme celle-là que je me sens comme une archéologue de la langue.
Hey, c'est vrai, ça doit être excitant quand ça arrive. Est-ce que tu pourrais nous partager des exemples?
Eh bien, avec joie. Pas plus tard que la semaine dernière, en fait, je faisais des recherches sur le mot piastre, qu'on connaît tous très bien. Là. Puis par hasard, en fait, je suis tombée sur une attestation qui était assez ancienne, avec la graphie pias, avec deux S, donc qui correspond à une autre façon de prononcer le mot. Puis ça a permis de reculer la première apparition de cette graphie-là d'environ 50 ans.
Wow! 50 ans.
Oui, fait que c'était vraiment le fun. Quand c'est arrivé, c'était super excitant. Puis là, ben, y a d'autres recherches marquantes aussi qui sont pas nécessairement... en fait, qui mènent pas nécessairement à un aussi long saut vers le passé. Comme l'autre fois, je suis tombée, en fait, sur le mot « trempette », là, qui était, en fait, un plat servi à la cabane à sucre avec du sirop d'érable, du pain, pour ceux qui connaissent ça, ceux qui fréquentent les cabanes à sucre. Puis dans l'édition de 1998, la plus vieille citation qu'on avait pour ce mot-là datait de 1862. Puis la recherche était super bien faite, mais j'avais vraiment l'impression, à cause de la forme de la citation, que je pourrais trouver plus vieux. Puis après beaucoup de recherches, à peu près 4 ou 5 bases de données, puis une petite affaire de chance, je suis tombée sur 2 attestations qui dataient de 1851. Donc, j'ai pu faire reculer l'histoire du mot en français de 11 ans, ce qui, wow. était, ce qui était assez extraordinaire à ce moment-là. J'étais contente d'avoir écouté mon intuition.
Puis quand tu parles de la forme de la citation là, qui t'a donné l'indice que le mot pouvait être plus ancien, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Bien, en fait, souvent, quand on a pour une première fois un mot à l'écrit, il va y avoir des marques qui montrent que ça ne fait pas encore partie de l'usage. Donc, soit des guillemets, peut-être des italiques. Des fois, la forme du mot est quand même particulière, puis ça montre que l'auteur était moyen à l'aise de l'écrire en vrai. Mais quand c'est bien intégré au système, on voit que, bon, là, il n'y a pas de marque particulière, puis c'était le cas de cette attestation-là de trempette de 1862. Fait que là, mon intuition m'a dit que peut-être qu'il y aurait plus vieux.
Joël, est-ce que tu pourrais nous parler des outils dont tu te sers là, pour mener ta recherche, puis nommer quelques différences là, entre les outils actuels puis ceux qui ont été employés pour préparer la première édition du Dictionnaire historique du français québécois dans les années 1990?
Oui, il y a beaucoup de différences, Julie. En fait, pour travailler, j'utilise principalement des bases de données informatisées, ce qui n'était évidemment pas le cas dans les années 90. La première que j'utilise, c'est toujours le fichier lexical informatisé du TLFQ, qui a fait l'objet d'un balado passé. Puis, en fait, j'utilise aussi des archives comme la BANQ numérique, Canadiana, Eureka, Google Livres, donc plein d'archives, en fait, publiques qui sont disponibles sur Internet. Puis j'ai accès, à cause de ça, à des centaines de milliers de documents papier qui ont été informatisés, puis des microfiches aussi qui ont été informatisés, puis qui sont rendus disponibles en version PDF. Ça me permet de traiter quand même beaucoup de volumes en peu de temps. Puis c'est justement ça la plus grosse différence avec le travail qui a été réalisé au TLFQ entre les années 70 et 90 pour la publication du premier DHFQ.
Oui, puis je t'interromps quelques secondes, là, ça me fait penser, M. Poirier en parlait dans un épisode précédent où il disait que les gens classaient des fiches assis par terre, mm-hmm. Dans la poussière et que justement ça se passerait pas comme ça aujourd'hui, donc c'est intéressant que tu nous racontes, toi, comment tu fais tes recherches.
Hey, c'est clair, puis ça, c'est quelque chose qui m'épate au quotidien. Là. J'imagine des gens qui travaillaient dans des documents papier, des sources, mot par mot, avec presque leur intuition seulement pour seul outil, puisqu'ils étaient en train de construire le dictionnaire qui nous sert de base pour nos recherches. Puis en fait, ce qui est vraiment étonnant, c'est que je trouve pas toujours des attestations plus anciennes, finalement. Évidemment, pour le plus récent, je mets à jour, ça va de soi. Mais pour tout ce qui est plus ancien, bien souvent, la recherche était tellement bien faite qu'il y a seulement 4 ou 5 années de différence, par exemple, à une attestation plus vieille que je peux trouver. Ce qui montre quand même la force du travail qui a été réalisé dans les années 70, 80,
oui.
90.
Alors que ces étudiants-là ne disposaient pas des mêmes outils que ceux qu'on peut utiliser aujourd'hui.
Ben exactement. En fait, moi, toute seule, je peux traiter plus de volume peut-être en une seule journée que ce qu'une équipe entière pouvait faire en une semaine, puisque je peux traiter énormément de documents avec de la recherche dans le texte. Donc, c'est ça, ça m'impressionne au quotidien quand même. Monsieur Poirier, en fait, parlait dans un balado de ruches et d'abeilles que les gens travaillaient fort au TLFQ. Puis je suis comme dans une position privilégiée pour confirmer que la ruche était très construite, hyper fonctionnelle. Et pour utiliser une attestation, une expression que j'ai cherchée cette semaine, ça y allait au toast.
Joël, sur quel genre de trouvailles tu peux tomber là, dans les bases de données? Est-ce que tu vois des choses qui sont amusantes ou étonnantes?
Bien, ça arrive pas tout le temps parce que, bon, déjà, dans une base de données, il y a beaucoup de choses qui sont, en fait, très variées. La grande majorité des documents numérisés, c'est des écrits journalistiques, donc des journaux, des revues, de la presse en ligne, des blogs, parfois. Il y a aussi des monographies, des œuvres littéraires qui sont entrées dans le domaine public. Il y a parfois des manuscrits anciens qui sont super difficiles à déchiffrer, des écrits de notaires, de la correspondance privée, des programmes de théâtre. Il y a vraiment de tout là-dedans. Il y a même des fois des pamphlets de propagande politique. Mais ce qu'on trouve d'amusant ou d'étonnant souvent, ça provient d'annonces, de publicités d'époque, là, des blagues, des sections de journaux qui se concentrent sur les potins. Je suis toujours très contente quand je trouve un québécisme dans un contexte comme ça.
Moi, je suis toujours très contente aussi quand t'en trouves parce que ça veut dire que ça va... Ça retentit dans ma cour, puis moi aussi, je vais pouvoir me régaler des potins.
L'autre jour, Joël, tu nous parlais de blagues et de ragots sur les veuves à l'herbe.
Ben oui, les pauvres veuves à l'herbe. En fait, on trouve dans plusieurs journaux d'époque, là, donc fin 1800, début 1900, des sections humoristiques remplies de potins, de cancans, de ragots. Puis en gros, les lecteurs des journaux envoyaient les potins de leur paroisse aux éditeurs de leurs journaux favoris, puis ces potins-là étaient publiés dans des sections spécialisées des journaux.
C'était comme un Twitter.
Ben, c'est exactement ça. J'ai l'impression que je lis un genre de mur de ragots ou c'est ça, Facebook, Twitter, etc. Puis quand j'ai fait la recherche sur veuve à l'herbe...
Parce qu'initialement, tu faisais la recherche sur le mot herbe.
Oui, exact, c'est ça. Okay. Je faisais la recherche sur herbe, puis il y a une expression avec herbe qui est veuve à l'herbe, qui est en fait un québécisme qui désigne une femme dont le mari l'a quittée ou qui n'habite plus avec son mari. Ben, j'ai trouvé plein d'exemples de cancans qui mettaient en vedette la fameuse veuve à l'herbe. Je vais vous en les reins, en fait, qui datent de 1921.
Publié
Est-ce que tu as la source?
Oui, ça a été publié dans le samedi. Donc, c'était les cancans du samedi. Donc, Albert S., est-ce que tu t'ennuies bien de ta petite veuve à l'herbe depuis son départ pour Montréal, toi qui l'aimais? Donc, c'est quand même des choses très privées. C'est très privé. Puis, en fait, au cours de la même recherche, je suis tombée sur une blague de 1923, cette fois dans Le Canard. Également au sujet des pauvres veuves à l'herbe qui étaient comme le dindon de la farce à une certaine époque, on aurait dit. Mais je vous préviens d'avance, la blague n'est pas drôle du tout. L'humour a bien changé. Puis cette blague-là, à l'époque, a gagné un concours. Donc, c'était dans un concours de blagues. Donc, en fait, je vais vous la lire. Bon. Ce n'est pas une raison parce que notre amoureuse est une veuve à l'herbe pour lui faire manger de l'avoine.
Mais ça change des blagues scatologiques.
Effectivement.
Que t'entends aux affaires.
Mais ça me fait penser, en fait, à l'humour aujourd'hui qu'on apparente aux jokes de papa, là, les concours d'humoristes qui essaient de se faire rire avec des blagues pas drôles. Oui. Ça ressemble quasiment à ça. Puis là, ben, j'étais curieuse, je me disais, voyons, c'est quoi la blague avec l'avoine? Puis apparemment, faire manger de l'avoine, c'est une expression qui a disparu, qui veut dire rivaliser avec un autre prétendant là, ou supplanter un prétendant.
Ah. Wow, fait que ça t'a amené à découvrir même une autre expression.
Ben, c'est ça, je me cultive. Écoute, on devient très cultivé.
Je me cultive.
Comme de l'avoine.
Comme l'avoine ou l'herbe. C'est vrai, parce que nos recherches nous amènent à faire d'autres recherches pour comprendre ce qu'on trouve. Mais là, on parle des citations sur lesquelles tu tombes qui sont amusantes, là, mais j'ai pas ton expérience pour ce qui est de la recherche dans les bases de données, mais j'en ai suffisamment pour savoir que c'est parfois frustrant. Et là, quand je pense à ça, je parle à la performance des bases de données qui n'est pas égale d'une à l'autre. Donc, des fois, là, on peut chercher quelque chose, puis on se dit que ça va être relativement simple, puis finalement, on a 100 000 occurrences d'un mot qui apparaît. Donc, évidemment, tu ne peux pas passer ton temps à chercher 100 000 occurrences. Donc, qu'est-ce que tu fais pour raffiner ta recherche?
Bien là, en fait, je me fie souvent à mon imagination. Là, j'essaie d'imaginer le mot dans un contexte, puis je vais ajouter des co-occurrents. Donc, ça m'est arrivé récemment avec le mot « un », comme un appât, finalement un hameçon. Là, ça rapporte avec « un », s'écrit « A-I-M » ou « H-A-I-N », ou je l'ai trouvé aussi « H-A-I-M ». Donc,
ça, c'est une autre difficulté aussi. Il peut avoir plusieurs graphies.
Exact. Mot. Puis, ben, ce mot-là, justement, est relatif à la pêche. Fait que j'ai commencé à juste chercher des co-occurrents avec, bon, « canne à pêche », peut-être « ver de terre ». Puis là, j'essaie de trouver des façons. Puis finalement, on finit par trouver. Mais on sait qu'il y a sans doute des choses qu'on trouve pas parce que ben, c'est caché trop loin. Puis on n'a pas moyen, finalement, malgré tous les outils numériques, on n'a pas moyen d'atteindre cette attestation-là.
Mm-hmm. OK. Puis à quoi peut-on s'attendre comme nouvelle citation dans le dictionnaire historique du français québécois? Bon, dans la nouvelle mouture?
Oui, bien, c'est sûr qu'en plus de la bonification de nos articles existants, il y a des nouvelles citations qui vont aussi montrer des sens qui sont apparus depuis la première édition du Dictionnaire historique du français québécois. Là, je précise apparus à l'écrit parce que peut-être qu'ils existaient déjà à l'oral, mais on les a trouvés pour la première fois depuis à la forme écrite. Par exemple, il y a des citations que j'ai trouvées qui exemplifient le sens de baigne qui est lié à une manœuvre automobile, donc un dérapage circulaire. Un autre exemple de sens nouveau, ça pourrait être toaster au sens de fatiguer, là, comme dans une attestation du quotidien du Saguenay en 2009. Dire que les coureurs de la catégorie senior élite vont faire la boucle 5 fois aujourd'hui. Moi, j'étais toastée après un tour, les bras mous comme de la guenille. Donc, on voit, c'est assez vivant. Tu me demandais tantôt, Julie, qu'est-ce qui rend une attestation intéressante. Celle-là, je l'aimais parce qu'on voit ce que c'est être toastée, les bras mous, fatigués, puis capable de continuer.
Oui, tu m'apprends quelque chose, je ne connaissais pas ce sens-là.
C'est très imagé. Effectivement.
Puis, ben, pour revenir sur ma fameuse veuve à l'herbe, j'ai aussi trouvé une citation où on trouve la forme au masculin veuf à l'herbe.
Oh, ben.
Qu'on ne recensait pas du tout dans l'article de 98. On mentionnait même pas que ça pouvait être au masculin. Donc, c'est la preuve qu'il n'y a pas juste les femmes à qui une séparation impromptue peut arriver.
Effectivement.
Donc, ça va être ajouté au DHFQ numérique.
Wow.
Puis, ben, évidemment, maintenant que le dictionnaire est informatisé, on n'a plus de limite par rapport à l'espace là, pour l'ajout des citations, ce qui était bien entendu un enjeu pour une édition papier. Donc, on peut ajouter des images en plus des vidéos, des sons, en fait, des extraits qu'Annick trouve aussi, dont on a parlé dans le dernier épisode. Puis ça va rendre les mots vraiment vivants. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, puis j'ai hâte que les gens puissent consulter ça aussi.
Mais nous aussi, on a hâte de voir ça.
Oui, puis, tu sais, dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on pourrait, comme il n'y aura pas de limite d'espace, on pourrait aussi s'intéresser qu'aux citations et qui vont être placées en ordre chronologique, les lire les unes à la suite des autres pour voir dans quel contexte le québécisme a évolué.
Exact. On va pouvoir regarder toutes les citations puis voir un peu comment l'usage s'est modifié avec, je l'espère, des citations qui seront intéressantes pour les gens autant qu'elles le sont pour moi.
Donc, en résumé, il y aura de nombreuses nouvelles citations dans le DHFQ numérique en plus du contenu numérique. Donc, merci beaucoup, Annick.
Ça me fait plaisir, Caroline.
Merci beaucoup, Julie.
Merci.
Merci beaucoup également à Joël de nous avoir partagé une partie de son travail au TLFQ. J'imagine qu'en terminant, tu aimerais nous laisser sur quelques cancans.
Oui, ben j'ai sorti des cancans de 1922 du samedi pour que vous puissiez vivre un peu une recherche avec moi. Le premier contient le québécisme « capine ». Donc, Marie, t'es pas fatiguée de porter ta capine rouge? Le deuxième contient le québécisme « fin ». LP, que t'as donc l'air fin. Donc, des fois, on voit que c'était gentil. Le troisième contient le québécisme « fiche ». Flora M dit qu'après Rod P, les autres gars sont des fiches pour elle. Et finalement, mon préféré qui contient le québécisme « queue d'anguille », qui veut dire « loche », c'est à Cabaneau un avis. Il y aura au garage central une grande vente de gentils garçons à l'occasion de la belle fête de Noël. Alors, si ça vous intéresse, les filles, voici ce que vous devrez débourser pour vous acheter un gentil garçon. GG se donnera pour une mâchée de gomme. Tijan pour une poignée de noisettes. PP pour une boîte de sardines et AL pour une queue d'anguille. Donc, il y en a d'autres, si ça vous intéresse. Donc, 1922, les cancans du samedi. Et tous ces québécismes sont dans le DHFQ, évidemment. Donc, si vous voulez aller consulter les articles pour en apprendre plus à leur sujet.
Merci beaucoup et à la prochaine.
Merci, Caroline.